With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Salut à tous et bienvenue pour sur les antennes de Tojan Actu pour cette nouvelle pastille consacrée à la draft NFL 2023 et aux différents besoins des franchises. Un jour, une pastille pour une franchise. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'équipe qui aurait pu avoir le cinquième choix de cette draft 2023 s'ils n'avaient pas vendu la maison pour récupérer leur nouveau quarterback. Je sais que ça va beaucoup amuser mon camarade du jour, monsieur Victor Roulier. On va parler des Denver Broncos. Salut Victor.
Et bonjour Grégory, bonjour à tous.
Changement de décor donc dans le Colorado, ça on n'apprendra pas grand chose à nos auditeurs, avec l'arrivée donc d'un nouvel head coach, Sean Payton, dont la mission sera de réparer son nouveau jouet, Russell Wilson, son Toys R Us, comme on dit aux États-Unis.
Ça
c'est un petit cadeau au passage, voilà, avec le anglophone pour
ça
commencer.
Ça existe encore Toys R Us?
C'est possible. Il me semble que c'était pas en très très bon état il y a pas si longtemps que ça, mais voilà.
Ça parlera aux gens comme nous qui ont plus de 30 ans.
C'est ça. Ceux qui achetaient leurs jouets en noir et blanc. Donc arrivé Sean Payton aux commandes, donc je le disais, notamment pour bien entourer Russell Wilson. On a vu qu'il y a des mouvements qui ont été faits durant la free agency. C'était nécessaire, notamment puisque ça fait partie des équipes dont on va parler qui n'ont pas de premier tour dans cette draft et qui n'ont même pas de deuxième tour, Victor.
Ah oui, là, la définition même de vendre la maison était plutôt bien vue ici. Parce qu'en effet.
Les jardins, prenez-le aussi. Hein.
Là, ils ont tout vendu. Le jardin, les dépendances, le chien, tout est parti avec. Mais bon, après, voilà, ça a été un pari perdant sur la première saison. C'est le rôle de Sean Payton d'en faire un pari gagnant sur la deuxième.
Tout à fait. Alors, on va rappeler rapidement le concept. Donc, tu vas nous énumérer un petit peu tes différents choix. Donc, il y a deux choix du troisième tour quand même, hein, qui ont été récupérés par les Broncos, en l'occurrence. Alors que j'essaie de revérifier tout ça. La magie du direct, bien entendu. C'était bien un choix. Comment ils ont récupéré un choix du troisième tour? C'est ça que j'essaie de voir. J'ai un doute là-dessus. En provenance des Indianapolis Colts, apparemment. Pour un choix du troisième tour, il y a eu un switch notamment l'année dernière, mais donc les Broncos se retrouvent quand même malgré tout avec ce deuxième, troisième tour, on va dire. Donc du coup, ils auront le 67e, le 68e choix au cours de ce troisième tour, et on développera également tout à l'heure leur quatrième tour, hein, parce que généralement on s'intéresse aux trois premiers tours, mais là on s'intéresse principalement à leurs trois premiers choix. On développera sur leur 108e choix, qui sera donc le début du quatrième tour, et on s'intéressera également à une possible bonne affaire avec leur cinquième, voire leur sixième tour, qui leur reste, puisque les Broncos sont partis de ces franchises avec le plus petit nombre de choix dans cette draft 2023, puisqu'ils n'ont que 5 sélections au cours de cette QV, à l'heure actuelle, en attendant de savoir s'il y aura des potentiels échanges. Je te lance donc, Victor, sur les possibilités qu'on a au troisième tour, avec notamment le 67e choix, qui peut être le premier choix de l'ère Sean Payton du côté du Colorado.
Bah écoute, suite au mouvement qu'il y a eu notamment l'année dernière et au départ de Chubb, il y a clairement un besoin de pass rush dans cette équipe. Je pense que l'attaque, finalement, elle a besoin d'être revitalisée, mais plus par le coaching que par un renfort, on y reviendra évidemment. Mais la défense, bien qu'elle performe peut-être mieux qu'attendu ces dernières années, malgré un effectif qui est limité, je pense qu'il faut continuer à rajouter du talent dans cette défense. Et c'est pour ça que, vraiment, au niveau du pass rush, on a un Baron Browning qui a surpris, dans le bon sens du terme. Vraiment une saison intéressante. On a à l'intérieur un Jewel qui fait le boulot, etc. Mais Randy Gregory, par exemple, j'ai du mal, si tu veux, à y croire sur le long terme, hein, notamment à cause du personnage. Et du coup, je suis parti sur Zach Harrison. Zach Harrison, qui est joueur de Ohio State. Écoute, c'est un joueur qui risque de prendre un peu de temps à développer. Et du coup, je n'ai pas l'impression qu'il soit pressé non plus. Donc, c'est l'avantage d'avoir, comme je disais, Gregory et Browning déjà dans l'équipe. Zach Harrison, sur le papier, athlétiquement, physiquement, c'est très bon. C'est rapide, c'est puissant, c'est musclé, c'est tout ce que tu veux. Après, le problème de Zach Harrison, c'est qu'il a perpétuellement déçu au fil de sa carrière. C'est-à-dire qu'il a jamais réussi à, on va dire, transférer un peu cette dominance physique dans une dominance dans le jeu. Et c'est pour ça que c'est un joueur qui va nécessiter du coaching, parce que c'est pas qu'il peut pas le faire, c'est que finalement, il a jamais vraiment trouvé sa place dans cette défense de Ohio State, et il y a un manque de QI football qui était un peu criant, peut-être un manque de technique aussi, notamment dans la manière dont il engage ses blocs, et dont il a du mal à se désengager lorsqu'il a besoin de le faire. Donc, c'est ce type de joueur qui a les capacités physiques d'un premier tour, mais finalement, rapidement, tu te dis, bah, il a tellement déçu qu'il va chuter. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas prendre le risque. On a vu plein de joueurs ne pas exploser en université et finalement avoir une explosion tardive en NFL. Je trouve que c'est le genre de choix qui se tente au troisième tour.
J'entends. Alors, en plus, c'est bien parce que ça poursuivrait, on va dire, la récolte des pass rushers d'Ohio State du côté de Denver, hein, puisqu'on, tu l'as dit, en effet, ils ont Baron Browning qui arrive de Columbus, mais il y a également, c'est Anthony Cooper, son prénom, j'ai un doute, Jonathan Cooper, pardon, qui arrivait il y a quelques années du côté de Denver, donc du coup, ça poursuivrait en effet cette culture locale du côté de Denver. Alors, je t'avoue que j'ai pris une toute petite, une direction légèrement différente, je suis resté en défense. Parce que ça, je ne l'ai pas dit en introduction, mais c'est vrai qu'au niveau de la free agency, on s'est quand même pas mal intéressé à la ligne offensive, hein, pour essayer de protéger Russell Wilson, avec Ben Powers notamment sur l'intérieur qui arrive de Baltimore. On a Mike McGlinchey également qui est arrivé de San Francisco pour protéger l'extérieur. Donc ça, en tout cas, à mon sens, offensivement, c'était plus forcément un besoin aussi prégnant, en tout cas dès le premier choix. Mais en défense, en effet, il y a des besoins. Je me suis plus penché sur le premier rideau. Parce qu'avec le retour de Vance Joseph du côté de Denver, il faut s'attendre a priori à rester sur une formation majoritairement en front 3. Globalement, des nose tackles, ils en ont. Vance Joseph a fait venir Zach Allen d'Arizona, donc, avec qui il arrivait quand même à... Enfin, qu'il a réussi à faire progresser petit à petit, qui peut apporter cette polyvalence côté edge setter, on dira, sur l'extérieur du premier rideau, qui peut être très intéressante. À mon sens, il lui manquait peut-être... C'est difficile de l'avoir au troisième tour, mais ce profil à la J.J. Watt qu'il avait du côté d'Arizona. Alors, je ne pense pas que la personne dont on va parler, en l'occurrence, Tuli Tuipulotu, est exactement un J.J. Watt. Il y a beaucoup de problématiques concernant Tuipulotu, hein, je vais le dire tout de suite. C'est-à-dire que c'est un joueur qui jouait lineman défensif, donc du côté du USC. Là aussi, majoritairement sur un front 3. Mais c'est un joueur qui présente pas mal de contraintes dans le sens où il est relativement léger aujourd'hui pour être un free tech, donc un lineman défensif qu'on va plutôt utiliser entre le guard et le tackle. Techniquement, il y a beaucoup de choses qui sont perfectibles, que ce soit en termes de science du plaquage et surtout, et ça c'est le plus prépondérant pour un lineman défensif, pour tout ce qui est, on va dire, utilisation des mains pour se défaire des blocs, ça c'est encore quelque chose qui fait un petit peu défaut. Et c'est vrai que c'est un peu un point d'interrogation de Tuli Tuipulotu, c'est que pour moi, en mon sens, la comparaison avec un joueur comme J.J. Watt, c'est qu'il est capable d'apporter de la pression. C'est pour moi, c'est un des tout meilleurs pass rushers sur cette classe de lineman défensif au cours de cette QV 2023. Mais on a encore du mal à placer le curseur, à savoir si, en fonction de ce qu'estiment les uns et les autres, ça doit être un deuxième ou un troisième. Ça doit être un free tech, comme je le disais, ou un joueur ou un defensive end peut-être un peu plus écarté en fonction de là où on l'utilise. Donc c'est là où le point d'interrogation peut se poser. Mais c'est vrai que j'ai privilégié cette position-là à un poste d'edge rusher parce que, bon, j'entends les réserves que tu as sur Gregory, mais c'est vrai qu'il y a Browning, il y a en effet Cooper, il y a Bonito qu'ils ont drafté l'année dernière, même si voilà, c'était pas Payton, mais en l'occurrence, c'était George Patton, le general manager. Donc, Je me dis malgré tout, il y a peut-être un petit peu de matière et c'est peut-être ce qui peut les inciter à aller plutôt vers le premier que vers le deuxième rideau.
Non, mais c'est ça, je comprends et ça fait sens. Mais de toute façon, au troisième tour, tu n'auras pas le joueur parfait. Donc, il faut t'adapter et trouver des joueurs dont tu penses qui peuvent être des bonnes surprises.
On passe au deuxième joueur, le choix suivant, du coup, en 68e, et je crois que tu es revenu du côté de l'attaque pour les Broncos.
Et oui, avec un joueur, moi, qui vraiment, pour le coup, m'intrigue. C'est Jayden Reed, c'est le receveur. Alors, difficile de dire quel sera le comité de receveurs de cette équipe, parce que oui, il y a Courtland Sutton, Tim Patrick et Jerry Jeudy, mais il y a quand même beaucoup de rumeurs qui disent que Jerry Jeudy, notamment, serait à vendre pour la draft, donc ça ne serait pas forcément étonnant de voir partir à ce moment-là. Et Jayden Reed, moi, c'est vraiment un joueur. Alors, il est peut-être un peu trop petit, un peu trop léger par rapport à des standards NFL classiques. Mais il sait tout faire. C'est un coureur de tracé excellent. Une fois qu'il a la balle en main, les yards après réception, il peut les prendre. C'est également un excellent retourneur, jamais négligeable hein, quand on prend un joueur au troisième ou quatrième tour. C'est le couteau suisse, mais pour autant, c'est pas le couteau suisse. Oh, c'est un peu un receveur, un peu un running back. Non, c'est un receveur. Il sait faire plein de choses, mais c'est un receveur. Avec un arbre vraiment développé, il a transféré de Western Michigan à Michigan State et à Michigan State, vraiment, il a étoffé son niveau de jeu. Alors voilà, je disais, un peu trop petit, peut-être un peu trop vieux pour certains, puisqu'il a 23 ans, mais moi je trouve que c'est un joueur vraiment talentueux. C'est ce type de joueur, alors je ne dis pas qu'il va avoir exactement le même impact, mais un peu comme Terry McLaurin à l'époque. Personne n'en parle, il va tomber au troisième tour. Mais alors moi, je ne vois pas ce qui l'empêche de devenir extrêmement productif en NFL.
Oui, non, je te rejoins globalement. C'est vrai qu'il y a un profil extrêmement complet. En fait, la vraie problématique, et ça va me permettre d'enchaîner un peu sur l'alternative que j'avais en tête, c'est de savoir s'ils ont plus envie de remplacer justement Sutton ou Jeudy, sachant que les deux, en effet, sont dans les rumeurs de transfert les plus avancées. Pardon. Donc, du coup, si je reprends ta logique de Reed, ce serait peut-être plus dans l'idée de prendre la place d'un Jeudy. Moi, je suis parti plus sur un profil pour remplacer justement Courtland Sutton et un profil qui. Alors là aussi, je vais faire des analogies encore avec ce qui s'est passé du côté des Saints il y a quelques années. Il y a un profil quand même qui me rappelle beaucoup celui de Michael Thomas, qui est Xavier Hutchinson d'Iowa State. Alors c'est sûr qu'il y a peut-être comment dire, un profil athlétique qui est peut-être moins flagrant que pour Thomas. C'est peut-être pas un joueur qui excelle par exemple sur des phases de bloc, par exemple, ou ce genre de choses. Mais je trouve que d'un point de vue vraiment réception en tant que tel. En tant que receveur de possession, joueur avec du timing efficace sur de la séparation ou du duel, je trouve qu'un Xavier Hutchinson, c'est vraiment un joueur assez précieux et un joueur qui peut devenir clutch petit à petit. Tu le disais de toute façon, en début de troisième tour, il ne faudra pas s'attendre à avoir un joueur extrêmement poli dès le début. Mais je trouve que c'est un joueur, je pense en tout cas que c'est un joueur qui peut vraiment attirer l'attention de Sean Payton parce qu'il a en effet ce profil à être une soupape de sécurité extrêmement intéressante et rassurante pour Russell Wilson dans un avenir plus ou moins proche.
Oui, bah de toute façon, comme tu le dis, là, c'est plutôt les goûts et les couleurs, dans le sens où la question, c'est quel type de receveur tu as envie d'avoir. Parce qu'en effet, les deux ont totalement leur place à ce choix-là. C'est juste vraiment, en effet, qui tu veux remplacer et qui tu veux avoir pour le futur.
Donc voilà, bon, a priori, on part quand même sur une décision de receveur. Après, voilà, vu les décisions en tout cas qui sont prises et les nombreux échos qu'on a en provenance de Denver, manifestement, le corps de receveur ne semble pas convenir à 100% à Sean Payton et son nouveau coaching staff. On passe à ce quatrième tour, justement, donc ce 108e choix. Et alors, on a pris des décisions communes là encore, puisqu'on est parti sur la ligne offensive. Je disais que ça avait été renforcé pendant la free agency. Ça n'empêche pas de considérer ce poste avec notamment un retour du côté d'Ohio State, monsieur Rouillet.
Mais écoute, oui, moi je fais partie des gens. Je suis fan des Eagles, donc forcément pour moi, la profondeur au niveau des lignes, c'est toujours extrêmement important. Et il faut pas croire qu'au troisième ou au quatrième tour, tu prends des mecs qui vont être titulaires dès la première année, etc. C'est très rare. Tu prends des joueurs que tu veux développer pour être titulaire dans 1 ou dans 2 ans. Et quand je regarde cette ligne, moi je suis désolé, mais en centre, il y a Lloyd Cushenberry. Alors certes, Quinn Meinerz, qui aujourd'hui joue garde, peut jouer centre, hein, mais quand je vois Cushenberry, moi, sur le long terme, j'ai un peu des doutes. Et du coup, je suis parti en effet sur un autre joueur qui s'appelle Luke Whipler, donc Ohio State, qui est un joueur main violente. Je pense que main violente, ça, on peut tous être d'accord. Extrêmement athlétique. Vraiment, c'est un joueur qui, on va dire, prend le meilleur de tous ses duels parce qu'il est extrêmement intelligent. Et quand bien même il aurait, là encore, pas forcément la taille idéale, etc., ben, je trouve que... Et il n'est pas non plus le plus explosif ou ce que tu veux, mais il est tellement intelligent qu'il prend toujours le bon bloc et il se fait rarement battre, en fait. Et je trouve qu'au niveau des linemen offensifs, c'est au moins aussi important d'être intelligent que d'être athlétique. On le voit avec des joueurs comme Jason Kelce ou d'autres. Quand bien même tu n'as pas l'impact physique, tu es quand même au milieu d'une ligne, donc ça va être difficile de te faire bouffer. Si tu prends le bon angle, tu vas réussir à contenir ton vis-à-vis. Et je trouve que Whipler, c'est celui qui prend toujours le bon angle. Et c'est un joueur, moi, vraiment, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est QI Football. Et ce genre de joueur, moi, j'adore. Donc, tu vois, tu ne prends pas un énorme risque. Tu es au quatrième tour, mais potentiellement, dans 2 ans, tu as ton centre titulaire.
Je te rejoins là-dessus. Je suis parti sur un centre qui a des qualités assez similaires, pas en termes de gabarit. Parce que justement, on pourrait reprocher par exemple à Whipler d'avoir un déficit de taille. À l'inverse, je vais parler de Joe Tippmann, le centre de Wisconsin. Dans la même idée que toi, le même postulat, notamment pour Cushenberry, du côté de son depuis sa draft en provenance d'LSU, tout n'est pas forcément très rose du côté de Denver. Je pense que c'est un euphémisme de le dire. Après, il est capable de rebondir, mais il arrive en fin de contrat l'année prochaine. Et il y a peut-être aussi dans l'idée, pour compléter les choix qui ont été faits pendant la Free Agency, de vraiment avoir une solution de rechange assez rapidement sur l'intérieur de cette O-line. Ce qui est intéressant, je trouve, avec Tippmann, c'est que globalement, il est assez complet, là aussi. Très bon QI foot. Si on regarde globalement les envies de Sean Payton, on dira, pour renouveler sa ligne, il va généralement vers des linemen offensifs qui sortent d'universités assez réputées dans ce domaine-là, ou en tout cas... assez homogène, hein, Wisconsin, Stanford, Michigan. Donc je me dis que en soi, Tippmann, ça peut être un choix qui l'intéresse. Il y a des choses à perfectionner. Là encore, ça fait partie de ces joueurs dont on ne sait pas si ça peut être un troisième, ça peut être un quatrième. Les plus optimistes l'envoient même au deuxième. Mais il y a quand même des choses qu'il faut gommer chez lui. Un peu d'indiscipline, avec beaucoup de flags, notamment en 2022. Un peu trop en tout cas pour sa position. Sa taille, notamment, quand on fait un joueur très très grand, et je pense où il va falloir lui apprendre notamment à gérer tout ce qui est centre de gravité sur les bull rush ou ce genre de choses. Donc il y a énormément de choses, je pense, qui vont être à perfectionner, mais à terme, justement, ce temps d'adaptation, on dira, derrière un titulaire pendant un an, ça peut être vraiment, vraiment une très très bonne chose. Donc c'est pour ça qu'en soi, un quatrième tour, ça me paraît pas farfelu. S'il est encore disponible, Denver peut tenter sa chance là-dessus. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les 3 premiers choix. On va tenter notre sleeper, monsieur Roulier. Alors attends, du coup, j'ai perdu le...
Notre pépite.
Notre pépite, oui. Du coup, j'ai perdu le choix, malheureusement. J'ai plus mes notes.
Aubrey Miller Jr.
Aubrey Miller, merci.
Le linebacker de Jackson State. Écoute, on est en sleeper, hein, donc par définition. On est sur des joueurs qui forcément, nécessitent du travail. Mais là encore... J'ai tendance à privilégier des joueurs qui ont des choses qui sont intangibles, comme on a tendance à dire. C'est-à-dire, il est athlétique, c'est un leader de défense et il est très bon en équipe spéciale. Rien que ça, pour moi, ça en fait un sleeper. C'est-à-dire que c'est le type de joueur que j'ai envie de voir dans une défense. Je vois plutôt comme un linebacker intérieur, pour le coup. Même s'il a été utilisé dans plusieurs rôles, mais pour le coup, c'est comme ça que je le vois. Par contre, c'est un joueur qui, là encore, a besoin de se développer en termes de QI football. Il est trop naïf, en fait. Il se fait trop souvent avoir par des feintes, que ce soit de bloc ou par des play-action ou par des choses comme ça. C'est trop facile de le dérouter. Donc, il faut vraiment là-dessus... qu'il travaille et ça va prendre du temps, mais il a tout pour réussir. Faut que son intelligence de jeu progresse dans le même temps, donc il va falloir bosser. Et je me dis, tu vois, avec un mec comme Sean Payton, bon, c'est quand même difficile d'avoir des doutes sur sa capacité à bosser. Enfin, Sean Payton a quand même créé un staff qui est de haut niveau, selon moi. Et s'il y a bien des staffs NFL qui peuvent transformer des petites pépites en joueurs complets, bah, c'est eux. Et du coup, c'est un joueur, ça m'intriguerait de le voir progresser dans cette escouade, même si je pense qu'en tant que rookie, c'est équipe spéciale. Ouais, c'est tout.
Oui, je suis sur la position de linebacker également, pour plusieurs raisons. Alors, déjà, parce qu'il y a pas mal d'inside linebackers qui sont free agent la saison prochaine, dont Josie Jewell. Mais bon, là, le propos sur un sleeper, c'est pas forcément d'aller chercher un linebacker titulaire d'emblée. Je suis parti sur Ben Van Sumeren, linebacker de Michigan State, hein, qu'on n'a pas pu voir malheureusement au combat parce qu'on ne peut pas inviter tout le monde, mais qui en l'occurrence a fait un pro day assez notable et qui a été un des rares, à mon sens. Alors, je ne vais pas dire à surnager, parce que la défense de Michigan State en 2022, c'est tout un concept. Hein. Ça l'était déjà en 2021 lors de leur belle campagne. Pardon. Mais encore, c'est un joueur qui a dénoté une certaine polyvalence, qui n'est pas extraordinaire en couverture, mais qui a quand même un gabarit et une capacité à changer de direction assez intéressante, justement pour, en tout cas, ne pas démériter dans ce domaine-là. Ce qui, je pense, apporterait aussi un profil différent sur ce groupe inside linebacker du côté de Denver. On a principalement des run stoppers purs. Et en effet, pour compléter ce que tu disais sur Aubrey Miller, avoir un joueur en effet qui, là pour le coup, va pas hésiter à aller au charbon, notamment sur les équipes spéciales. C'est principalement de toute façon ce qu'on demande dans un premier temps aux joueurs qui sont sélectionnés entre le 4e et le 7e tour. Donc voilà, Ben Van Sumeren, à mon sens, ne ferait pas tâche dans cet objectif-là pour être assez complet en défense et extrêmement précieux en special team. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur les Denver Broncos, hein, un peu d'attaque, un peu de défense, hein, vous piocherez un petit peu là-dedans pour vous faire votre idée là-dessus. Merci en tout cas Victor d'avoir été en ma compagnie.
Eh bien merci à toi.
Et on se retrouve demain pour parler notamment des Los Angeles Rams. Salut à tous et à très vite sur les antennes de TV.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.